Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Faut-il que les enfants de djihadistes retournent dans leur famille ? RMC vous a dévoilé hier qu'une veuve d'un terroriste du Bataclan a été rapatriée avec ses 3 enfants en France. Aujourd'hui, le père de ce terroriste, Azzedine Amimour, souhaite rencontrer sa petite-fille qu'il n'a jamais vue, ainsi que les 2 autres enfants de la veuve. Il témoignait en exclusivité ce matin sur RMC.
J'attends à ce que je puisse déjà les rencontrer, tous. Aussi bien la maman que les 3 enfants. J'ai hâte de la voir, de voir à quoi elle ressemble. Donc j'ai envie de savoir. Moi, j'ai bien envie de la rencontrer, parler avec elle. Et puis les enfants, les prendre dans mes bras et puis essayer de leur faire oublier ce qu'ils ont vécu. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont séparer les enfants ? Ce serait dommage de les séparer. C'est des enfants innocents qui n'ont rien à voir avec ça. Je suis à l'étranger, tu peux rien faire. Je vais essayer de rentrer la semaine prochaine pour voir entamer une rencontre ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai hâte de les rencontrer et pouvoir évaluer la situation avec eux.
Alors, les 3 enfants de la veuve de ce terroriste, pour l'instant, ils sont placés dans une famille d'accueil, tous les 3 ensemble. Et il n'y a pas de visite à la famille. Est-ce qu'il faut, Laurent Dandrieux, que les enfants de djihadistes retournent dans leur famille plutôt qu'en famille d'accueil, justement?
Mais j'en sais rien. Je pense que c'est du cas par cas. Je pense que, en tout cas, l'impératif, c'est de s'assurer que ces enfants ne vont pas être replongés dans un milieu qui témoigne d'une indulgence vis-à-vis du terrorisme. Voilà, c'est ça, à mon avis, c'est ça le seul enjeu. Je pense que là, ça, c'est du cas par cas, mais je n'ai pas de...
Daniel ?
Franchement, c'est des situations qui sont très délicates. Oui. Effectivement, tu as le sentiment qu'il faudrait prendre chaque dossier et regarder. Parce que... honnêtement, une fois que tu as passé le coup de l'émotion, parce que souvent, tu as le témoignage. Alors, s'il suffit que dans une phrase, tu mettes « enfant », et puis en face, tu mets un grand-parent ou le tonton qui est gentil, qui a fait de mal à personne, et il dit bah moi j'aimerais bien rencontrer et tout, et là tout le monde se met à chialer, et puis ah bah c'est pas de leur faute, les pauvres petits machin. Il me semble quand même que c'est quelque chose un dossier grave. On parle de terrorisme, donc il y a le gars, il s'est barré là-bas. Bon bah lui on en parle plus, soit il est en prison, soit machin, soit il est mort, soit ce que vous voulez.
Mort au Bataclan.
La femme, première étape. La femme, elle y est allée aussi. Pourquoi ? Elle est impliquée, elle a les mêmes idées que lui.
Ah oui, elle a les mêmes idées, c'est sûr.
Non, mais là, pour ce cas-là, mais je dis en général. Ouais. Bon, ok. Bon, donc la mère, on veut plus en entendre parler non plus. Les gamins, quel âge ils ont ? S'il a 10 ans, est-ce qu'il a déjà été un petit peu enrôlé ? Quelles sont ses idées, tout ça ? Bon, il a 5 ans. Ah, il a pas l'âge de raison. Peut-être que tu peux le sauver. Qu'est-ce que t'en fais ? Tu le fais venir. Comme dit Laurent, il va dans la famille. Dans la famille, est-ce que tout le monde était clean dans la famille ? Ou est-ce qu'il y a risque qu'il retombe dans un milieu un petit peu compliqué ? Ah, franchement, moi je veux bien qu'on réagisse à l'émotion à ce genre de dossier-là.
On fait quoi,
mais pour beaucoup de Français, moi je vais te dire, ça va être très simple. Hein. Hop, tout le monde reste dehors, on veut revoir personne. Hein. Famille de djihadistes, on veut plus en entendre parler.
Je suis pas sûr.
Ça va être la réaction de l'opinion publique majoritaire.
Quand on voit des vidéos avec des gamins comme là à l'instant, les extraits vidéos qui passaient avec des enfants de 2-3 ans, je suis pas sûr que la majorité des Français balayent ça d'un revers de main.
Le cas du 2-3 ans, t'as raison, c'est pour ça que je précisais.
C'est très
au cas par cas, oui, tu vas dire,
le pauvre petit. Un ado de 17 ans, t'as peut-être le faire revenir, effectivement.
Mais ça va être quoi, la limite? Ça va être 5 ans, ça va être 6 ans, puis s'il a 4 ans et demi, et puis quelle est sa famille? On va regarder la famille du tonton qui pleure parce qu'il a envie de les revoir. Bon, alors vous, est-ce que vous êtes complètement clean? Parce que pourquoi le gars de votre famille, avrier. On va regarder, on va enquêter.
Ah ben ils ont enquêté. Non, parce que on parle de l'enfant d'un terroriste
qui
est mort au Bataclan. Donc je pense que sa famille, elle a été passée au crible. Tu vois,
je pense que s'il y a un domaine dans lequel il faut faire confiance aux autorités.
Ouais.
Savoir si c'est opportun ou pas, il me semble que c'est bien celui-là.
Sauf que la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes dans l'illégalité.
Oui, mais il n'y a pas que la France qui a été condamnée pour ça.
Sauf que la Belgique, la Grande-Bretagne.
Ouais, et quels sont les pays qui ont été, frappés par des actes de terrorisme? Beaucoup la France en premier.
La Belgique, la Grande-Bretagne.
La France en premier.
La Belgique. La France en premier.
La France en premier.
Alors, si vous voulez faire le décompte,
oui, mais la France en premier.
La Grande-Bretagne a été touchée de plein fouet par des attentats en 2005.
Oui,
mais la suite. La Belgique a eu son lot d'attentats. Les terroristes, d'ailleurs, du Bataclan, venaient de Belgique. La Belgique, un pays qui a 12 millions d'habitants, a été Et la Belgique, juste factuel, la Belgique a choisi et la Grande-Bretagne et la plupart des pays européens ont choisi une toute autre politique, celle du rapatriement. C'est factuel. D'un point de vue européen, nous avons signé des accords.
Et qui en a eu le plus?
Nous avons signé des traités européens. Des et la France est dans l'illégalité. La Cour européenne des droits de l'homme.
Après, moi, si la Cour européenne nous condamne parce qu'on serait trop indulgent avec les familles de terroristes, j'ai envie de dire emmerdons la Cour européenne des droits de l'homme.
Formidable. Non, mais absolument. Moi, je suis d'accord.
Emmerdons.
Peu importe. Non,
Rémi. La Cour européenne
des droits de l'homme. C'est pas du tout la même chose.
Vision.
Peu importe le hit parade. Alors, je vais aller dans ton sens. Je vais dire, OK, peu importe le hit parade des pays les plus touchés, mais enfin, la France est quand même dedans dans le top 3. Hein, oui. D'accord, très bien.
L'Espagne aussi.
L'opinion publique dans ce pays a le droit d'être sensible à ce sujet.
Bien sûr.
Et a effectivement, peut-être pas se foutre, l'expression est un petit peu forte, mais à dire, écoutez, la Cour européenne des droits de l'homme, vous êtes bien gentils là, mais nous, on veut récupérer personne. Et si l'opinion publique française veut ça, eh bien que la Cour européenne des droits de l'homme donne des leçons et sanctionne la France.
Sujet plus léger dans ce zapping. Léger ce matin. Faut-il se refaire la bise au travail depuis la crise du Covid? C'est une habitude qui s'est en grande partie perdue, ce qui n'est pas pour déplaire à l'ensemble des GG.
Ah, je déteste ça, c'est horrible.
On s'en fout. Parce que vous savez, la bise, en fait, en plus, indiquait d'où tu venais. Parce qu'il y a des endroits où on fait 4 bises, à Paris on fait 2 bises,
à
Paris on fait
à 2 bises. Tu savais jamais si tu devais continuer.
Toi, Joël, t'aimais pas la bise?
Non, c'est pas que j'aimais pas, mais je trouvais qu'à un moment, ça prenait beaucoup de temps sur le travail. Après, on va prendre le café.
Et en banlieue, on fait 4 bises.
Et ouais, donc
à un moment. On en fait que 2.
Moi, je pense que la bise à tout le service.
T'as pas envie de faire la bise à tout le monde, surtout.
Ouais, mais. Tu sais, il vient, il te claque la bise, tu te dis, bon, ok.
Parfois, il met la main derrière, là, ça gêne les gens.
Pour moi, la fin de la bise, c'est la meilleure nouvelle de ces deux dernières années. Benjamin Muller, vous partagez ça?
Pitié, oui. Arrêtons la bise. Alors moi, en fait, je dirais que je suis partagé. En entreprise, avec les collègues, le côté où on arrive au boulot et on doit embrasser 40 personnes, ce qui était quand même le cas avant le Covid.
Nous, on arrive plus tôt, il y a personne, donc c'est bon.
Ouais, c'est ça. Et moi, quand j'arrive, vous êtes généralement, j'ose pas venir vous déranger parce que vous êtes en train de préparer. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec les copains, avec les amis, etc., le fait de pouvoir retrouver quand on arrive à une fête, mettons qu'il y a 15 personnes, alors c'est vrai que c'est pas recommandé, c'est pas, mais pouvoir un peu s'embrasser, un petit peu se toucher.
Un petit hug.
Ouais, mais
là, on parle d'entreprise.
Bien sûr. C'est pour ça que je dis en entreprise, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai connu des entreprises où les hommes faisaient vraiment la bise à 100% des femmes et qu'elles n'en pouvaient plus. Et maintenant, c'est vraiment facile de dire non, mais je me sens un peu enrhumé, je fais plus la bise. Donc merci.
Je pense qu'on a le droit de choisir. Tu vois, si on fait la bise ou pas. Mais bon, évidemment, ce serait mal vu. Vous avez pas l'air d'être très bise, Laurent Dandrieu.
Non, mais je suis très bise avec les gens que j'aime bien. Mais effectivement, cette fiction que dans l'entreprise, on serait tous potes et ce serait une gigantesque camaraderie généralisée est horripilante parce que c'est du mensonge, en fait. Et voilà, le milieu professionnel, c'est un milieu professionnel. On peut avoir des relations amicales avec tel ou tel avec lequel on a des affinités et à ce moment-là très bien, faisons-lui la bise. Mais l'idée de faire la bise à des collègues dont on a rien à foutre et qu'on supporte uniquement parce qu'on est là pour gagner faire le taf et gagner notre vie ensemble.
À valeurs actuelles, vous faites la bise ou pas?
Moi non, ça dépend. Moi, il y a des gens à qui je la fais, des gens à qui je la fais pas, parce que je suis plus ou moins proche d'eux. Voilà.
D'ailleurs, je suis sûr que vous partagez.
Les gens que je vous vois.
Je suis sûr que vous partagez l'avis de Laurent.
Je suis plutôt adepte du bonjour tout le monde, mais écoute, je me souviens, il est parfois arrivé qu'on travaille dans les mêmes rédactions, ou qui sont très larges, genre Open Space, et dans les rédactions sportives, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, de femmes qui se sentaient obligées de faire la bise à tout le monde. Je ne sais pas si elles se sentaient obligées, mais en tout cas,
on se sentait obligées.
Bon, voilà, donc tu vois, j'ai bien compris, et qui devaient faire le tour. Je te jure, un matin, je me disais, mais attends, la situation était parfois absurde. Je m'étais amusé à chronométrer. Pratiquement 10 minutes.
Ah, mais bien sûr.
À faire le tour de tout le monde et tout. Ouais, mais il n'y a pas.
Merci. Si tu fumes et que tu fais la bise,
beaucoup se sentent un peu obligés. Tu vois, il y a une. Des gens devant toi, 10, 20 personnes, tu vois, bonjour tout le monde, c'était tout aussi poli.
Tu n'es
pas obligé de. Voilà.
Et le Covid, accessoirement.
Il y a une autre façon.
Le Covid, la gastro,
à un moment, j'étais dans une boîte où il y a eu une pression pour qu'on se dise tu. Et c'était ridicule parce qu'en fait ça correspondait pas à la réalité du rapport des gens. C'est-à-dire qu'il y avait
des valeurs actuelles, ça m'étonne.
J'ai dit j'étais dans une boîte qui.
Ça doit pas être dans l'heure actuelle.
Et donc il y avait des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi parce que j'étais jeune à l'époque et que j'avais pas envie de tutoyer parce que ça correspondait pas à la réalité de nos
rapports.
J'adore
cette élégance. Dernier extrait dans ce zapping. Non mais cette histoire incroyable. Apolline Matin ce matin, comment une enfant a-t-elle pu être oubliée dans un bus pendant 8 heures jeudi en Eure-et-Loire, une petite fille de 3 ans a été oubliée donc pendant 8 heures dans un bus scolaire. Le chauffeur ne l'a pas vue lorsqu'il est parti après son service. Une série de manquements graves pour la coach de vie Joël Dagosséry.
J'ai pensé à ma fille, je me suis dit mais comment c'est possible? Moi, je me rappelle, les sorties scolaires, il y a plusieurs vérifications, en fait. Donc, on dit le chauffeur, quand tu montes, on te compte, enfin, on vous compte, je me rappelle. Quand vous descendez, on vous compte aussi.
On avait l'appel en descendant.
Voilà, exactement. Oui. Arrivé sur le lieu, vers l'école, je crois. Donc, il y a l'appel aussi. Donc, sûrement qu'ils ont dû voir à plusieurs étapes, normalement, qu'il devait manquer quelqu'un. Et le chauffeur de bus. Alors, je veux bien qu'on me dise qu'il manque des chauffeurs de bus, mais là, apparemment, il y en avait un. Je crois pas que le bus se soit conduit tout seul. Et normalement, bon, en tout cas, je sais pas.
Il a une obligation, lui aussi, de vérifier.
Exactement. Hein. Avant de descendre du bus, il doit faire le tour de son véhicule et regarder avant de descendre. Donc là, en fait.
Quand il y a les tout petits.
Ouais. Bah, exactement. Mais là, zéro. En fait, il y a eu zéro contrôle à chaque étape. Pour qu'une petite reste 8 heures, c'est qu'il y a eu zéro contrôle à chaque étape. Donc, j'imagine que les sanctions vont être un peu en cascade. Hein. Je ne vois pas comment il peut en être autrement.
Benjamin Muller, vous êtes papa de 3 enfants en bas âge, ça vous scandalise?
J'ai jamais oublié mes enfants dans les bus scolaires.
Oui, enfin, c'est pas son nom.
Alors, bien sûr, c'est horrible et tout, mais. Franchement, c'est obligatoire que ça arrive, ce genre de choses. Je sais pas si vous avez déjà accompagné vos enfants, attendez une seconde, dans des sorties scolaires. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs. Du moins, plaisir. Non, c'est sympa, on voit les autres
c'est
enfants.
Horrible.
On voit. Oh, j'ai fait plusieurs fois à la piscine, au musée, des trucs l'an dernier quand j'avais un peu le temps. Et moi, ça m'angoissait. Parce qu'en fait, à chaque moment, il faut compter. Ils sont 28, ils sont 27. Non, mais attends, là, on en a que 26 et il manque le cartable et trucs. Donc,
ouais,
tu repars dans le vestiaire.
C'est la même chose, là. On est dans un bus, elle est au fond du bus.
Oui, mais ce que je veux dire par là, quand on gère 30 enfants tous les jours de l'année, etc. C'est horrible, hein. Enfin, je veux dire, si ça m'était arrivé, je pèterais un plomb, je porterais plainte contre la terre entière et tout. Mais que ça arrive une fois de temps en temps, je peux comprendre le truc, vu la difficulté pour contenir tous les enfants. Puis, ils descendent à 12 d'un coup. Donc, attends, ils étaient 12 ou ils étaient 11, je sais plus. Bon, moi, je pense que tout le monde est sorti. C'est arrivé le jour où le chauffeur de bus était fatigué.
Bah, tu regardes sous les sièges, non, quand tu
Ah, bah, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à quatre pattes.
On explique à l'instant, c'est la règle. Le chauffeur est censé, c'est obligatoire, c'est même une règle. C'est là, je sais pas ce que ce sera faute professionnelle ou j'en sais rien, mais il est censé, avant de quitter son bus, vérifier.
Est-ce que c'est un chasseur?
C'est ce que j'étais en train de me demander.
Un chasseur
exactement.